Le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent :
le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon.
Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit :
que la paix soit avec vous.
Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit :
pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai.
En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit :
avez-vous ici quelque chose à manger ?
Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit :
c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.
Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit :
ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu.
Voilà la plus longue lecture de la parole de Dieu, mais c'est chouette quand même de pouvoir avoir ce conte quelque part, c'est compté. Alors, lorsqu'on arrive ici dans ce texte, Jésus est mort, crucifié sur une croix à côté de deux brigands. Des soldats ont percé son côté pour constater qu'il était bien mort. Et puis, quelqu'un a récupéré son corps, Joseph d'Arimathée, et l'a mis dans un tombeau neuf. D'accord ? Et donc, on est juste après cet événement-là. Il va se passer quelques heures et on arrive au dimanche matin. Et c'est là que le récit commence sur la résurrection. Et donc, on va répondre tout simplement aux questions qui sont dans le manuel. Il y en a 8 ce matin. Et donc, je vais essayer d'y répondre brièvement. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce texte. J'ai déjà prêché sur Luc 24, des portions. À chaque fois, on apprend des choses. Là, on va avoir une vision assez globale. Et c'est suffisant. C'est suffisant. Qui est informé en premier de la résurrection ? Et ça, monsieur le curé nous a déjà donné la réponse. Ce sont les femmes. C'est ce qu'on lit au verset 10. Marie de Magdala, Jeanne, et oui, il y en a une, il y avait une Marie aussi, Marie, mère de Jacques, et d'autres qui les accompagnaient. Donc, les premiers témoins de la résurrection sont bien des femmes. Elles viennent embaumer le corps de Jésus, et là, elles vont trouver la pierre roulée et le tombeau vide. Mais rien ne dit dans le texte qu'elles sont rentrées dans le tombeau. C'est Pierre qui va rentrer, lui, dans le tombeau. En tout cas, il y a deux anges qui leur apparaissent. Alors au début, il dit deux hommes resplendissants, et puis plus loin dans le texte, il précise que c'était des anges qui sont venus leur parler. Et donc, on lit au verset 5 et 6, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Et donc, c'est sur cette parole-là, ils entendent cet ange, et donc, elles vont aller l'annoncer aux apôtres. Alors, la question qui suit, c'est, est-ce que leur témoignage est crédible à l'époque ? Et vous avez vu la réponse, elle est derrière moi, elle est assez évidente. Non, absolument pas. En fait, si vous aviez demandé à une femme de témoigner, c'est comme si vous demandiez à un enfant de 3 ans à témoigner dans un procès aujourd'hui. C'est l'équivalent à peu près. On l'écouterait, mais on prendrait un peu de distance, voire beaucoup de distance. En fait, le contexte juridique du 1er siècle, tant juif que romain, montrait que le témoignage d'une femme était considéré comme irrecevable ou au mieux de très faible valeur. Flavius Joseph, donc c'est un historien juif de l'époque, il écrit la chose suivante. Alors, il y a une traduction en français. Je ne sais pas si elle est exacte, mais en fait, j'ai demandé à un IA de le traduire parce que j'avais du mal. Le mot « témérité », notamment, je ne savais pas trop comment le traduire. Voilà comment il l'a traduit. « Qu'aucun témoignage ne soit accepté de la part des femmes à cause de la légèreté et de l'audace de leur sexe. » Alors, l'audace, voilà, je ne sais pas s'il y a des anglicistes ici, le mot « témérité ». En tout cas, c'est un peu sexiste, vous ne trouvez pas ? Et encore, c'est gentil. Il y en a qui sont beaucoup plus violents que ça, mais ça, c'est le témoignage d'un historien juif qui a vécu juste au temps des apôtres. Alors, c'était la condition des femmes de l'époque. Et donc, c'est d'autant plus révolutionnaire et étonnant que Dieu choisisse de se révéler à des femmes alors qu'elles n'avaient aucune crédibilité dans la société. Ça montre qu'en fait, rien ne peut arrêter la propagation de la bonne nouvelle de Jésus. Parce que si on avait voulu casser le christianisme, c'est exactement ce qu'on aurait fait. On aurait donné ce témoignage à des gens qui ne sont pas crédibles. Et c'est ce qui se passe. Et pourtant, le christianisme a littéralement explosé à partir de ce moment-là. Et des gens ont été jusqu'à mourir alors qu'ils savaient qu'ils allaient être persécutés. Ils vont prêcher le message de la résurrection de Jésus alors qu'ils savent qu'ils vont être persécutés. Et ils vont maintenir leur témoignage et quasiment tous les apôtres, sauf l'apôtre Jean, tous vont mourir en martyr. C'est terrible. Mais honnêtement, c'est une des plus grandes preuves que le message de la résurrection est authentique parce que ces gens vont mourir pour un message qui est vrai. Et c'est pour une parole, pour un fait historique. Jésus est vraiment ressuscité. Je ne sais pas si vous avez eu des copains à l'école ou des collègues de travail qui ont sorti une grosse boulette et qui vous demandent de vous associer à leur mensonge. Est-ce que vous allez soutenir cette position très longtemps ? Alors si c'est pour faire une blague, on est tous d'accord, on en fait, hein, on ment à quelqu'un juste pour lui cacher que c'est la date de son anniversaire. Mais s'il ne s'agit pas d'un anniversaire ou d'une blague, si c'est quelque chose de vrai qui a des conséquences, honnêtement, est-ce que vous allez soutenir ça longtemps ? Si vous savez que c'est un mensonge, à un moment donné, vous allez dire « Stop, on arrête tout, ce que je t'ai dit dès le départ, c'était faux. » C'est ce qu'on fait, et c'est ce que tout le monde ferait. Mais aller mourir alors qu'on sait qu'un témoignage est faux, mes amis, je connais personne qui fait ça. Il n'y a pas d'humain qui irait jusque-là. Si on vous torture, à un moment donné, vous crachez le morceau. Hein ? Et eh bien non. Personne n'a craché le morceau. Il y en a à qui on a coupé la langue, hein, des réformés, parce qu'ils étaient sur le bûcher, on allumait les flammes, ils prêchaient encore l'évangile aux bourreaux, et les bourreaux se convertissaient. C'est ça le pire. Et vous savez ce qu'ont fait les catholiques ? Pour qu'ils se taisent, on leur coupait la langue avant qu'ils montent sur le bûcher. Waouh ! Eh oui, parce qu'ils ne voulaient pas renier leur foi, ces hommes-là sont morts martyrs. Et donc là, on a un récit qui est historique, et le fait que ce soit des femmes, donc qui à l'époque n'étaient absolument pas crédibles, donne vraiment l'impression que ce texte n'a pas pu être trafiqué. Sachant que ce n'est pas que ce texte-là, c'est tous les évangiles qui disent la même chose. Ce sont des femmes qui ont été les premières témoins de la résurrection, et c'est elles qui ont annoncé cela aux apôtres. Alors elles avaient la foi, on va le voir, que ce n'était pas le cas de tout le monde. Et c'est la deuxième question, quelles sont les différentes réactions devant l'annonce de la résurrection? Alors là, on ne parle pas de foi hein, dans le texte, on dit à leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Là, on ne voit pas directement la foi, mais quand il y a un événement qui se passe, que je le vis et que j'y crois, j'en parle. Quand j'ai vu ma fille qui est là aujourd'hui, dans mes bras, quand je l'ai entendue crier pour la première fois, eh bien vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé toute la famille. Et c'est exactement ce que font ces femmes. En fait, elles font un constat ahurissant quand même. Elles arrivent, le tombeau est vide. Et elles se disent, waouh, on rencontre deux anges, je pense qu'on ne fait pas ça tous les jours. Hein. Et là, elles vont voir les apôtres. Et donc, il se passe quelque chose, c'est évident. On ne va pas raconter des choses qu'on n'a pas vécues, surtout alors qu'on va être pris, et c'est ce que vont faire les apôtres derrière, pour des niaiseries. Et c'est la deuxième réaction, ça c'est celle des apôtres. Hein, le texte dit, mais ils prirent leur discours pour des absurdités. J'ai dans ma version Colombe des niaiseries. Hein. Donc ça veut dire que le témoignage des femmes, ici, hein, vous avez vu l'homme là comme ça, c'est un peu condescendant, c'est moqueur, c'est méprisant. Et parce que c'était en partie des femmes. Et j'ai regardé dans le grec, en fait le mot il va même plus loin, c'est qu'il dit, ça signifie délire ou propos insensé. Donc elles viennent leur dire ça, et elles disent, mais vous avez fumé un joint là les filles, arrêtez votre délire, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'il leur fait comme remarque, c'est méprisant au possible. Et donc on voit que les apôtres, eux, ils ne sont pas du tout au même niveau de foi que ces femmes. Sauf que il y en a quand même un qui sort du lot, et lui il sort tout le temps du lot. Quand on parle du reniement de Pierre, hein, je me faisais la réflexion récemment, et souvent on critique l'apôtre Pierre, oh, regarde Pierre, il a renié Jésus trois fois. Ouais, mais ils étaient où les autres? C'est le seul qui était là. Alors peut-être Jean, mais c'est un des rares qui est resté là. Et ici, c'est le seul qui se met à courir au tombeau pour aller vérifier si ce qu'on disait était vrai, vous voyez. Donc il est peut-être un peu méprisant, mais quand même, il se dit, peut-être qu'elles disent vrai, vous voyez. Il y a un doute qui s'installe chez Pierre, et donc il va y aller, et donc lui, il est perplexe. Et c'est ce qu'on lit au verset 12. « Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau, il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre, puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. » Alors là, on voit que Pierre ne s'attendait pas du tout à ce que Jésus ressuscite. Il était étonné. Si on s'attend à quelque chose, les amis, quand on voit la chose arriver, je pense que quand j'ai vu ma fille dans mes bras, j'étais pas étonné, vous voyez. J'étais « waouh !» Vous voyez, c'était un cri d'émerveillement. Parce que je m'attendais vraiment à ce qu'elle arrive à un moment donné. Hein, j'avais vu tous les signes. Eh bien, Pierre et les autres apôtres se sentaient dupés par la mort de Christ. Ils pensaient que c'était pas le Messie finalement. Lui qui devait venir instaurer son règne, il n'est pas là en règne et en maître. Non, il est mort. Donc c'est foutu. Toute notre espérance tombe à l'eau. Et c'était le message de la dernière fois. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas tout feu tout flamme. Il est étonné parce qu'il s'y attend pas en fait. Il n'avait pas fait le pont entre ce que Jésus lui disait à un moment donné et qu'il avait annoncé clairement sa mort et sa résurrection. On l'a lu dans le texte tout à l'heure, vous l'avez entendu. Et il n'avait pas fait le pont entre ça et la réalité de ce que Christ allait faire. Il était bloqué, vous voyez, il y avait un focus, et il n'arrivait pas à dépasser le stade de cette compréhension. Le Messie doit venir en règne et en maître. Et ils étaient bloqués là-dessus. Ils avaient oublié que ce Jésus allait souffrir, qu'il allait mourir et ressusciter. Oui, Jésus va revenir en maître et il va régner. Mais ce n'était pas le moment. Et on peut se mettre à leur place, ce n'était pas si évident que ça quand on lit les textes de l'Ancien Testament. Pour nous, ça saute au visage. Parce que nous, on a du recul, on a les textes du Nouveau Testament qui l'expliquent. Mais pas eux. Eux, il fallait un décodeur. Et ce décodeur, ils ne l'avaient pas encore. Le décodeur, ça allait être le Saint-Esprit. Et c'est lui, d'ailleurs, qui va ouvrir les yeux du cœur des disciples d'Emmaüs qui sont en train de marcher. Et c'est eux, le troisième public, eux, leur réaction, c'est de la tristesse. Hein, vous avez vu, Jésus, il vient discuter avec eux, il ne se fait pas connaître. Il les laisse tchatcher entre eux. Ah bon ? Mais t'es pas au courant de ce qui s'est passé là-bas ? Non, non, raconte. Et ils sont tristes. Vous voyez, la réaction de ces gens, c'est la tristesse. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et le texte dit clairement qu'ils s'attendaient à ce que ce soit un Messie régnant, pas un Messie mourant, souffrant. Et donc là, on a vraiment quatre réactions différentes à la mort et à la résurrection de Jésus. En fait, même les proches de Jésus, ceux qui ont vu un petit peu sa séance de stretching dans le ventre, hein, parce que moi j'ai vu ces clichés d'un bébé qui bouge, on voit sa tête, on voit son cœur qui bat, on l'entend, il y a des signes, mais tant que je ne l'ai pas eu dans les mains, j'avais du mal à me dire que j'allais être papa. Ça c'est réel. Eh bien c'était un petit peu ce qui s'est passé pour eux. Et je pense que la résurrection, ce n'est pas quelque chose de facile à croire. Peut-être que vous bloquez là ce matin. Eh bien, vous savez quoi ? J'ai bon espoir pour vous. Parce que ces gens-là, qui eux ont vu vraiment beaucoup de choses, ils ont vu les miracles sous leurs yeux, ils ont vu et ils ont entendu ce que Jésus disait. Donc ils avaient plein de preuves en fait. Ils ont eu du mal à croire, mais à un moment donné, le Saint-Esprit leur a ouvert les yeux et ils ont cru. Et c'est ma prière pour vous ce matin. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans le doute, peut-être que vous vous dites, ouais, il y a quelque chose de bien, je vois ces gens, leur vie est transformée, ils me parlent de Jésus comme s'il était vivant, comme la première fois que j'ai entendu ces chrétiens, alors que je ne l'étais pas, quand ils me parlaient de Jésus, j'avais l'impression qu'il était assis là, à côté de moi. Ils m'en parlaient avec une telle intimité, ils me parlaient de ce que Jésus avait fait pour eux, les miracles que Jésus avait fait dans leur vie, chose que j'ai vécue plus tard. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais il y a quelque chose là. Moi, je veux être comme eux, mais il y a un petit point de blocage. C'est peut-être là où vous en êtes ce matin. Peut-être que vous avez du mal avec cette résurrection. Alors attendez la fin du message, parce que je pense qu'il y a encore d'autres éléments que vous allez découvrir. Comment Jésus explique-t-il les événements aux disciples marchant avec Emmaüs ? Eh bien, Jésus aurait pu simplement expliquer, ben, vous voyez, là, à ce moment-là, je suis vraiment mort, ouais, réellement. Mais après, j'ai décidé de revenir à la vie. Ben, il y a le Père aussi qui m'a un peu aidé, il y a le Saint-Esprit, en fait, on était tous les trois, on s'est mis d'accord pour que je ressuscite, parce qu'en fait, le sacrifice que j'ai fait était parfait. Je n'ai jamais péché. Et je suis sorti de ce tombeau. Jésus aurait pu se simplifier et dire simplement ça. Eh bien, ce n'est pas ce qu'il fait. Vous avez vu ce qu'il dit ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, en fait, il prend toute la Bible de l'Ancien Testament. Hein ? Le Nouveau n'était pas encore écrit. Il prend tout l'Ancien Testament, commençant par Moïse. Et Moïse, c'est les premiers livres de la Bible, c'est le Pentateuque. Hein, la Genèse est attribuée à Moïse, l'écrivain. Il l'a écrit postérieurement, mais quand même, c'est un écrit qu'on attribue à Moïse. Et donc, il commence à Moïse, et ensuite, il va aller dans les prophètes. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de cette série ? On a commencé où ? À Genèse. Où est-ce qu'on commence à parler du péché ? Genèse 3. Où est-ce qu'il y a la première promesse de quelqu'un qui va écraser la tête d'un serpent, mais qui va être blessé au talon ? Vous vous souvenez de ce texte ? 3.15. Ça, c'est une promesse. La descendance de la femme. La descendance. Et qui c'est cette descendance? Là, on a Paul qui nous éclaire dans Galates chapitre 3. Cette descendance, c'est Christ. La descendance qui va être blessée au talon. Et effectivement, quand on est cloué sur une croix, on est fortement blessé là. On est d'accord. Il va aller jusqu'à mourir, mais la victoire, elle va avoir lieu parce que lui va écraser la tête du talon. Et ça, c'est la résurrection, les amis. L'écraser la tête du talon, il écrase la mort, il écrase le péché et le diable, il est victorieux sur le diable. Et ça commence où? En Genèse chapitre 3, le troisième chapitre de la Bible. Et c'est exactement ce que fait Jésus. Il commence là, à Moïse. Et probablement qu'il a expliqué l'histoire avec Abraham. Tu te souviens, avec Abraham, en Genèse chapitre 17, il demande de sacrifier son propre fils, le fils de la promesse. Mais c'est pas ce qu'il va faire. Au dernier moment, Dieu va pourvoir. Et donc, Abraham, par la grâce de Dieu, va simplement sacrifier un bélier qui s'est pris les cornes dans un buisson. Mais ça, c'est Dieu qui pourvoit. Et depuis le début, il commence à leur expliquer. Et il a probablement été aussi dans la loi, en leur disant, mais écoute, à un moment donné, je vous ai donné cette loi. Je vous ai donné un code et vous ne l'avez pas respecté. Et donc, j'ai dû envoyer des prophètes pour vous annoncer ces choses, pour vous les rappeler. Et je suis allé jusqu'à Jérémie en vous annonçant une nouvelle alliance. Parce que comme vous n'êtes pas capable de respecter ma loi tout seul, eh bien, je vais venir moi-même la graver dans votre cœur. Et c'est ce qu'il dit en Ézéchiel. Et donc, il va la graver, cette loi, dans le cœur des croyants, par l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint va venir à un moment donné et il va changer le cœur. Votre cœur qui est dur, je vais y graver ma loi et ça va devenir un cœur tendre qui va obéir à cette loi sans même que vous ayez à la comprendre. Ça va être gravé en vous, vous allez avoir le Saint-Esprit. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas lire l'Écriture, etc. Mais Dieu va faire naître de nouveau. Donc il va s'inscrire par le Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Et c'est ce que nous avons vécu et c'est ce qu'ont vécu les premiers apôtres quand le Saint-Esprit est descendu sur la Pentecôte. Ça sera pour la prochaine fois. Je vous en ai fait un petit teaser ici. J'avance. Quatrième question. Dans quel état d'esprit étaient les apôtres avant et après avoir eu connaissance de la résurrection? Alors là, on a déjà lu ces textes, mais avant, ils sont saisis de frayeur et d'épouvante. Ils pensent que c'est même un esprit. Et donc Jésus, il est obligé de leur dire, mais non, regardez, touchez, je suis un esprit, n'a ni chair ni os. Hein, d'autres versions disent qu'ils ont cru que c'était un fantôme, voyez. Donc, je ne sais pas si vous croyez à Casper le petit fantôme, mais apparemment, à l'époque, on y croyait déjà, des sortes d'apparitions mystérieuses. Eh bien, Jésus leur dit, ah, n'ayez pas peur. Mais ça, c'est leur réaction avant la résurrection. Ils ont peur, donc ils sont tristes. On l'a lu avec Cléopas, notamment. Et après la résurrection, eh bien, cependant, et regardez bien, cependant, c'est progressif, hein, il y a un changement qui s'opère, mais cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Et c'est qu'à la fin où ça va changer. Mais on voit là, au début, ils sont effrayés, ensuite, il y a une joie avec un peu d'étonnement, et puis à la fin, au verset 52, quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Donc vous voyez, c'est vraiment crescendo, on passe d'un état émotionnel dubitatif, même triste, à quelque chose d'hyper joyeux, au point qu'ils vont louer Dieu et se retrouver constamment dans le temple. Et ils voulaient être ensemble et se partager ces choses. Et vous voyez, quand on vit cela, ça n'a plus rien à voir avec avant. Donc il s'est vraiment passé quelque chose. Il y a eu une transformation de leur être, une transformation de leurs habitudes. Et donc ça prouve une chose, c'est que ce Jésus-là était vraiment ressuscité. Cinquième question, la résurrection de Jésus est-elle un fait historique? Alors là, Luc, vous savez que, vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, mais Luc, qui écrit ce récit, était médecin, historien et médecin aussi. Et donc, c'est dans l'évangile de Luc où on retrouve la plupart des mots techniques où il va expliquer justement la résurrection. Et là, en fait, en tant que médecin, eh bien, il va donner plein de preuves anti-hallucination. D'accord ? Pourquoi je dis ça ? Eh bien, parce que une hallucination, c'est toujours un rêve, c'est quelque chose qui est flou. Là, quand on vous demande de toucher, on n'est plus dans l'hallucination. D'accord ? C'est pas possible. En fait, touchez moi et regardez un esprit, na ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. C'est ce qu'il dit au verset 39. En fait, au départ, il croyait que c'était un fantôme, et là, maintenant, là, vous avez une preuve tactile, les amis. C'est pas une hallucination. Regardez, touchez. Hein. Moi, ma fille, quand je l'ai eue dans les bras, là, j'ai vraiment pris conscience, je suis papa. OK. Donc ça, c'était une preuve tactile, mais une preuve visuelle et cicatricielle. Et c'est ce qu'il dit à Thomas. Voyez mes mains et voyez mes pieds. Hein. Il y avait la marque de la crucifixion. Alors, est-ce que c'était juste une petite croûte ou est-ce que c'était une vraie cicatrice ? On n'en sait rien. De toute façon, en 3 jours, il n'y a pas pu se passer grand-chose, surtout sur un cadavre. Sauf que là, c'est un corps ressuscité. Donc, Jésus a créé lui-même l'apparence de cette crucifixion parce qu'il avait un nouveau corps. Hein ? Au bout de 3 jours, le corps commence déjà à se décomposer. Donc là, comme c'était un nouveau corps, qu'il était vivant, eh bien, il a dû créer lui-même les traces ou recréer les traces de la crucifixion. Donc ça, ce sont une autre forme de preuve. Et puis, on a une preuve biologique. Hein ? Il prit le poisson et le mangea devant eux, et il leur dit, il précise, un esprit ne mange pas. Et il a raison. Et vous savez quoi ? C'est un formidable espoir pour les bons mangeurs, ceux qui aiment la bonne bouffe. Vous savez pourquoi ? Parce que si Jésus est dans un corps ressuscité et qu'il mange du poisson, alors qu'il nous dit qu'il va nous préparer une place et qu'on nous parle des noces de l'agneau, d'un grand festin avec des grands vins, des mets succulents, mes amis, c'est probablement ce qu'on va faire au ciel. On ne va pas être des esprits flottant dans l'air, hein. On va être fait de chair, d'un corps reconstitué, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ressuscité en tout cas, on aura un nouveau corps, on n'aura plus ces limites qu'on a actuellement, et au travers de ce corps, on va pouvoir manger. Alors j'ai vu dans le texte, il rajoute entre crochets et du miel. Il n'y aura pas de vegan au ciel. C'est-à-dire qu'on pourra manger du poisson et aussi du miel, le fruit des abeilles, les pauvres petites abeilles qu'on a exploitées. Je ne sais pas si c'est dans le texte, c'est entre crochets, c'est à vérifier. Mais en tout cas, je l'ai redécouvert récemment. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, je me rappelais des poissons grillés sur la plage, mais je ne me rappelais pas du rayon de miel. Alors, est-ce que c'est un rajout tardif ? À vérifier, vous m'en direz plus si jamais vous avez la réponse. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Alors, preuve scientifique. En fait, quand on a des hallucinations, c'est rarement de manière collective. D'accord ? Ça peut arriver, mais c'est très rare. La plupart du temps, c'est une hallucination qu'on vit seul. Et là, quand on est 500 personnes à la fois, le texte dans 1 Corinthiens 15 nous dit qu'il y a eu plus de 500 personnes qui l'ont vu à la fois. On ne peut pas avoir une hallucination à 500. Ce n'est pas possible. Il y a trop de gens. Vous voyez ? Une, deux à la limite, mais pas 500 à la fois. Et donc, une hallucination, c'est une expérience qui est subjective et individuelle, et généralement, elle ne se partage pas. Or là, c'est tout l'inverse qui se passe. Donc vous voyez, on a une preuve quelque part qui montre que ce n'est pas de l'autosuggestion non plus. Pourquoi ? Parce que l'autosuggestion, c'est un fait. C'est-à-dire que vous vous dites, OK, Jésus va ressusciter, Jésus est ressuscité. Vous vous le dites, la méthode Coué, d'accord ? La méthode Coué, vous vous répétez que vous n'êtes pas malade, vous vous répétez un fait. Et puis à un moment donné, vous arrivez à y croire à votre fait. C'est ce qui se passe. Est-ce que c'est le cas ici ? Donc ça s'appelle de l'autosuggestion. Les mentalistes sont très forts pour faire ça. Ils vont vous dire des choses et puis au bout d'un moment, vous allez les ressortir sans même vous en apercevoir. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ça peut être de l'autosuggestion ? Est-ce qu'ils étaient tous en train de se dire « Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité ?» Vraiment ? C'est absolument l'inverse ici. Parce que sinon les femmes ne seraient pas venues avec des aromates pour embaumer le corps. Si on vient avec des aromates, c'est qu'il y a un vrai corps sur lesquels on va déposer ces aromates. Elles étaient là parce qu'elles croyaient qu'il était mort. Et tous les apôtres ont été étonnés. Pierre était encore étonné et il a fallu qu'il aille voir au tombeau. Donc vous voyez, personne n'était en train de s'auto-suggérer que Jésus était ressuscité. Tout le monde croyait qu'il était mort. Et là, on a des preuves indiscutables. Donc vous voyez que ici, c'est encore une autre preuve scientifique. Pas possible qu'il y ait une auto-suggestion. Et la dernière, une preuve historique. Et là, je vous en ai donné quelques-unes. Ça, c'est un résumé. Je vais vous lire l'intégralité du texte. Donc c'est un historien juif qui n'est pas chrétien, qui était juste là au temps des apôtres, et regardez ce que lui écrit. Alors moi je vous donne la version intégrale, ici vous avez juste un petit résumé. « Vers le même temps, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité, attira à lui beaucoup de juifs et beaucoup de grecs. C'était le Christ. » Et lorsque la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate le condamna à la crucifixion, ce qu'il avait d'abord chéri ne cessa pas de le faire, car il leur apparut 3 jours après ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et 1000 autres merveilles à son sujet, et le groupe appelé d'après lui, celui des chrétiens, n'a pas encore disparu. C'est un mauvais français, hein, on est d'accord, mais quand même, on voit ici, et vous savez que ce récit est tellement évident, qu'il montre que ce Jésus-là était ressuscité 3 jours après, eh bien il a été mis en cause en disant que c'était un rageot. Et donc aujourd'hui, il y a quand même des spécialistes qui travaillent sur la question, et les travaux les plus récents, eh bien on peut être confiant, parce qu'apparemment, ça fait vraiment partie des écrits de Flavius Josèphe, et ce n'est pas un copiste zélé chrétien qui aurait rajouté ça tardivement. Parce qu'on arrive à remonter, en fait, à l'origine du texte. Mais Flavius Josèphe n'a pas écrit que ça. Et ça, je trouve, c'est intéressant, ça n'a rien à voir avec la résurrection, mais vous allez voir que ça prouve l'existence et l'historicité de Christ. Et là, il s'adresse, donc ça, c'est des récits, hein, donc on prend juste en cours pour pas que ce soit trop long, et il dit « Anan réunit un Sanhédrin, traduit devant lui Jacques, frère de Jésus appelé le Christ, et certains autres en les accusant d'avoir transgressé la loi, et il les fit lapider. » Là, on a le récit de la mort de Jacques. Et qu'est-ce qu'il précise ? Il précise que c'est le frère de Jésus appelé le Christ. C'est exactement ce que la Bible dit. Et là, on voit qu'il a été, il va être lapidé, cet homme-là. Et lui aussi a été mort en martyr. Donc vous voyez que quand j'avance des choses, ici c'est un historien qui est juif, qui n'a absolument aucun intérêt à prouver l'historicité de Jésus, mais il raconte simplement des faits, ce qui s'est passé. Donc ça nous fait quand même quelques éléments. Alors les hypothèses alternatives qui posent des difficultés, c'est l'idée d'un vol du corps. Mais ça n'explique pas la transformation des disciples, hein. Il y en a certains qui disent « oui, mais le corps a été volé ». L'hallucination, ça ne correspond pas du tout à des expériences collectives et puis répétées. Et puis, il y aurait une légende qui aurait mis du temps. Si on dit que c'est une légende, en fait, une légende, ça met du temps à se construire. Ça met même des siècles à se construire une légende. Or là, en fait, c'est immédiatement après les faits. Tout de suite, le fait se passe et donc il n'y a pas eu le temps de broder quoi que ce soit. Les écrits n'étaient même pas encore là que déjà le christianisme commence à se répandre. Donc vous voyez qu'il y a quand même énormément d'éléments qui nous montrent que ce Jésus est vraiment ressuscité. Sixièmement, que vous inspire ce récit ? Alors là, je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Des certitudes ? Est-ce que vous êtes encore dans le doute ce matin ? Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais vous pouvez répondre intérieurement. Et si vous avez encore du mal à croire, eh bien, il y a encore quelques éléments ici. En fait, ça peut nous étonner, hein, et peut-être que c'est là où vous en êtes, hein, tout simplement. Ok, ouais, c'est intéressant. Je suis étonné. J'avais jamais vu toutes ces preuves. Pour moi, ce n'était pas du tout évident, mais ce matin, ça allait vraiment. Mais vous avez besoin d'un petit coup de pouce encore pour aller plus loin. Parce qu'il faut que cette résurrection, elle ait du sens pour vous. Et c'est ce que vont expliquer et va expliquer le texte ici. En fait, moi, ça m'inspire beaucoup de bonnes choses. Mais ça me montre surtout une chose. C'est que ce n'est pas la fin de l'histoire. La mort n'est pas la fin de l'histoire. Et c'est vraiment l'espérance qu'on a dans la résurrection. C'est que ce n'est pas la fin. J'espère que Si ce matin vous êtes rentré avec peu d'espérance, que vous êtes déprimé, qu'il y a des choses difficiles qui se passent dans votre vie, sachez qu'il y a un espoir, que Dieu peut tout recommencer dans votre vie, à zéro. Et vous repartez presque tout neuf, comme presque avec un corps ressuscité. Alors attention, il y a des limites à ce que je dis là, hein, mais vous pouvez recommencer en tout cas votre vie. Il y aura peut-être des cicatrices, il y aura peut-être des traces, mais vous ne serez plus la même personne. Plus la même personne. Et peut-être que comme ces apôtres, vous aurez, ou comme ces femmes, vous aurez envie de le partager autour de vous. En quoi la résurrection du Christ nous concerne-t-elle? Eh bien déjà, c'est la garantie du pardon. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, la résurrection montre que le péché, il a réellement été traité. Et qu'il a été définitivement traité. Sans la résurrection, on n'aurait pas la preuve que le sacrifice de Jésus a été validé par le Père. Et là, on l'a. Donc ça, c'est une première preuve. Et c'est ce qu'il dit au verset 46 et 47. La repentance et le pardon des péchés doit être prêché. Ça, c'est le message que nous, on doit transmettre. L'espérance de notre propre résurrection, je viens d'en parler, une relation vivante avec Dieu. En fait, Dieu n'est pas mort aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui s'adressent à Dieu. Hein. Beaucoup de gens s'adressent à Dieu en réalité. Hein. Plus de 80% des gens de la planète croient en l'existence d'un Dieu, en tout cas dans une divinité. Et donc, ils s'adressent à eux. Et moi qui étais un bon athée, en tout cas, je me croyais athée. Vous savez quoi? J'avais toujours une petite prière intérieure quand j'avais une galère qui me tombait dessus. En fait, tous les humains, à un moment donné, quand ils sont dans la misère absolue, ils se tournent, ils savent pas qui, mais ils se tournent ailleurs en tout cas. Ils ont ce réflexe. Eh bien là, vous pouvez vous adresser à quelqu'un de vivant, parce que ce Jésus-là, il est mort, il est ressuscité, ensuite il est remonté au ciel. Et aujourd'hui, il intercède même pour nous. Il prie pour nous. Jésus, prie pour toi, prie pour que tu arrives à la compréhension comme ses disciples et que ton cœur brûle au-dedans de toi. Que ce matin, moi c'est mon désir, c'est que votre cœur brûle à l'intérieur de vous quand on vous parle de la résurrection, quand on vous parle de Jésus. Waouh, oui, c'est ce que je vis, c'est fort, Jésus l'a changé ma vie, c'est formidable. Et donc vous n'êtes plus tout seul pour honorer Dieu maintenant, vous avez le Saint-Esprit avec vous, et donc il va vous aider à vivre cette vie chrétienne qui n'est pas toujours facile, mais on sait pourquoi on est là, on sait où on va, on a l'assurance qu'on ne va pas finir ici sur cette terre, mais qu'il y a un avenir qui nous attend glorieux, on pourra manger du poisson grillé et du miel. Et plein d'autres bonnes choses. Huitième et dernière, quel message les apôtres doivent-ils proclamer? Est-ce que ça nous concerne encore aujourd'hui? Alors, le message, il est assez clair, la repentance et le pardon des péchés, c'est ce qu'on doit prêcher, c'est ce que devaient prêcher les apôtres, et la situation n'a absolument pas changé, parce qu'aujourd'hui, on est encore des pécheurs, on a encore besoin de la grâce de Dieu, et on est exactement comme eux, en fait. Donc, ce message-là n'a absolument pas changé. On doit toujours et continuer à prêcher la repentance et le pardon des péchés, et croire que ce que Jésus a dit était vrai, en fait. Il a annoncé qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter 3 jours après. Et c'est ce qui s'est passé. Mais vous savez ce que Jésus a dit aussi? Et je n'ai pas mis le texte ici. Je vous lis le texte. Il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Et donc, ma question pour toi, est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois en Jésus, en ce qu'il a fait sur cette croix, pour toi, personnellement? Hein, il ne faut pas regarder ça de manière distante. Là, la question, elle t'est adressée à toi directement, là, dans ton siège. Bien sûr, à toute l'Église, mais à toi particulier dans ton siège. Est-ce que tu crois que Jésus, ce Jésus-là, il est vraiment historique? Il est vraiment venu sur cette terre. Il a fait tout le bien qu'il a pu. Et des hommes l'ont maltraité, l'ont condamné, l'ont crucifié. Et lui-même a été volontaire pour aller sur cette croix parce qu'il a payé le péché du monde entier, le tien en particulier. Et si tu le reconnais, qu'est-ce que dit Jésus ? Il dit que tu seras avec lui. Tu vivras, même si tu meurs. Tu vivras, même si tu meurs. Moi, je le crois, profondément. Et vous savez, depuis que je crois ça, j'ai plus peur de mourir. Alors, je pense que je vais flipper au moment où, 10 minutes avant, en disant, ouais, comment ça va se passer ? Mais franchement, c'est pas du tout un problème. Pourquoi ? Parce que je crois ce que Jésus dit. Et je le crois sur parole. C'est pas une croyance vague. C'est comme ces femmes, elles croyaient et ça a changé leur vie. Elles ont bougé, elles sont allées le dire aux autres, vous voyez. Et le fait que j'ai cru à un moment donné et qu'aujourd'hui je veuille le partager, quoi qu'il m'en coûte, je vais perdre mes voisins, mes copains, j'en ai perdu plein. Vous savez, le jour où je me suis converti, donc moi j'allais beaucoup dans les boîtes de nuit, et puis du coup j'avais des copains, puis ils m'ont invité un soir, et ils m'ont dit, bah, allez viens, on retourne en boîte et tout. Je fais, ok. Bon, pour mon témoignage, je vais y aller. Alors je me suis dit, bah allez, comme avant, on retourne en boîte, et puis là on rentre, on commande une bouteille, et puis ils me servent un verre de vodka, donc c'est vodka orange. Ça, c'était la dose classique, et donc ils me donnent mon vodka orange, et je le porte à ma bouche, et là je dis, mais, je repose, je dis, mais c'est plus toi ça, c'est plus moi. En fait, j'en veux plus. Vous savez ce que j'ai fait ? Tout au long de la soirée, j'aurais annoncé l'évangile. J'ai perdu tous mes copains ce soir-là. Quand Jésus transforme, il transforme tout, en fait. Nos habitudes et notre façon de percevoir les choses qu'on faisait avant a changé radicalement. Il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu bien d'autres choses qui ont changé. Et je vous en raconte une autre, parce que celle-là, je l'avais préparée, mais bref. En fait, Jésus, il répond à nos prières, même les plus secrètes. Et vous savez ce que j'avais dans ma tête quand je n'étais pas chrétien ? Je disais, moi, je veux avoir un bon métier, gagner de l'argent. Ensuite, je veux avoir une épouse, des enfants et une maîtresse. Pas terrible, hein ? Et là, vous dites, ah, quand même, là, il y avait du niveau, là. Hein ? Là, il y avait du niveau. Bah, vous savez quoi ? Dieu, il m'a tout donné. Parce que j'ai épousé une chrétienne. Mais elle était maîtresse d'école. Dieu a de l'humour. Dieu a de l'humour. Il nous prend là où on est, les amis. Mais il nous amène tellement plus loin. Bon, aujourd'hui, j'ai plus besoin de maîtresse. Hein. Déjà, elle est là tout le temps avec moi. Mais j'ai quand même plus cette prière. J'ai changé depuis.